Vous êtes sur RTL.
À demain.
RTL. 22h, minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière émission de la saison. Mais rassurez-vous, Parlons-nous va continuer tout l'été avec Sabine Calégari qui est avec nous ce soir dans le studio. Avant de lui donner la parole, je tenais à vous exprimer toute ma gratitude pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de cette saison. Vos témoignages nous ont fait entrevoir la complexité de l'âme humaine. Vos questionnements nous ont fait réfléchir, nous ont permis de poser un autre regard sur nos différences, de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Merci pour votre générosité, votre sincérité. On va maintenant, je l'espère, passer une belle soirée ensemble, riche en émotions, en confidences, en sourires, en partage. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, où Caroline et Paul vont vous accueillir et vous guider sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation. Et bien sûr, nous comptons sur vos réactions à tout moment. Vous pouvez envoyer un petit SMS au 64 900, vous tapez les trois lettres d'RTL au début de votre message, 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur notre page Facebook, RTL-Parlons-nous. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Caroline.
Et merci d'être avec nous ce soir.
Avec plaisir, merci à vous de m'accueillir pour cette dernière de la saison.
Et bien comme ça, vous allez pouvoir vous présenter un petit peu, de façon à ce que les auditeurs de Parlons-nous fassent connaissance avec vous, puisque c'est vous qui allez être aux commandes de l'émission cet été et qui allez être à leur écoute. Alors, vous êtes psychanalyste?
Oui.
Je crois.
Oui, je suis psychanalyste, j'ai mon cabinet à Paris.
D'accord.
Depuis presque 20 ans.
Ah oui?
Oui.
D'accord. Bon, donc de longues années de pratique et d'expérience.
Oui, après avoir pratiqué comme vous, je crois, Caroline, en hôpital.
Oui,
avant d'être en cabinet. Donc là, c'est une expérience un petit peu plus rude de la souffrance. Et en cabinet, où j'écoute tout type de personnes, tous âges, et où j'ai vraiment grand plaisir à travailler. C'est une vocation profonde pour moi. Et aujourd'hui, j'ai également envie de partager la psychanalyse, qui est souvent considérée comme une boîte noire, un peu mystérieuse.
Et qui est décriée, malheureusement, aujourd'hui. Oui. Hein. Les thérapies brèves, et qui ont d'ailleurs leur utilité, et qui font également beaucoup de bien, mais bon, un peu la psychanalyse, oui, c'est bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, un petit peu décriée, c'est le mot.
C'est donc vrai, c'est elle est décriée en tant que pratique et en même temps, ses termes, son vocabulaire sont dans la culture commune. On utilise presque tous ces termes de psychanalyste sans le savoir. On parle de refoulement, de déni, d'inconscient. Voilà. Et bon, en souhaitant redonner quelque chose que j'ai connu moi, qui sont les trésors de la psychanalyse pour guérir, enfin, c'est quelque chose de très puissant. Donc j'ai souhaité exprimer ça au plus grand nombre de personnes possible à travers un livre. Donc La vie augmentée, qui explique comment la psychanalyse fonctionne. Puis bon, j'ai fait un autre livre sur un personnage iconique.
Et là, maintenant, vous intéressez au sport.
Exactement.
Parce que ce personnage n'est autre que Zinedine Zidane. Vous êtes allé dans la tête de Zinedine Zidane.
C'est ça.
C'est le mental des sportifs qui vous intéresse et...
Ah, ce sont des personnalités hors normes parce que ils s'expriment par le corps, mais ce corps est animé avant tout d'un mental qui est extraordinaire. Bien plus complexe qu'on imagine en voyant simplement le mouvement. Enfin, il y a tout un monde derrière le mouvement d'un footballeur.
Un monde qui m'échappe, j'avoue. Donc c'est bien, ils vont pouvoir se régaler, les supporters, parce que peut-être qu'il va falloir les consoler. Les Bleus ayant perdu, vous aurez
c'est
peut-être
vrai.
Des...
Vous l'avez fait fort bien d'ailleurs la dernière fois.
Moi j'y connais rien, j'y connais rien du tout. Mais comme ça, avec vous, peut-être qu'ils pourront en parler. Est-ce que vous avez d'autres thèmes de prédilection également? Enfin, peut-être des sujets, des problématiques qui vous touche plus particulièrement?
Alors, ce qui me touche particulièrement, bon, c'est ma vocation, ce que je souhaitais, c'était aider des personnes, les guérir. Maintenant, ce dont j'ai envie, c'est que ça ne se fasse pas que dans le secret du cabinet ou un par un. C'est d'essayer d'aider le plus de personnes possible. Donc, pour ça, des médias comme RTL sont formidables parce que ça n'est pas pareil qu'une thérapie, mais on peut quand même donner l'esprit de notre métier aux auditeurs, leur faire faire l'expérience de ce que c'est que l'écoute, de montrer que la parole opère. Donc ça, c'est vraiment la ligne de fond, vraiment, de transmettre ces possibilités d'aide, de transmettre aussi ce que c'est que le mental humain. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Oui. Les personnes ne savent pas toujours à quel point elles ont des ressources. Donc les écouter, les guider, les aider à réfléchir, ça permet aussi de redonner de l'espoir.
Bien sûr, oui.
Ce qui est vraiment, on en a besoin. Et à titre de passion personnelle aussi, je m'intéresse aux neurosciences et à la physique quantique, puisque c'est quelque chose qui peut renouveler, en fait, les ressources de la psychanalyse.
Alors, les neurosciences, oui, la physique quantique...
Oui, parce que la physique quantique étudie l'énergie, et tout est énergie dans notre organisme. Notre cerveau fonctionne avec des cellules qui sont des neurones, mais il fonctionne aussi avec des connexions d'énergie. Mmh. Et au fond, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des ponts extraordinaires qui commencent à être faits. Quand on sait comment fonctionne l'énergie, on sait comment fonctionne l'intuition, par exemple. Cette chose qui est restée très mystérieuse.
Oui, oui.
Où, vous savez, on parle souvent de l'intersubjectivité, de la télépathie, enfin, des modes de communication non-verbaux entre les personnes. Mmh. Dès lors qu'on sait comment fonctionne l'énergie, c'est très simple, ce sont des champs électromagnétiques, c'est pas New Age, c'est pas quelque chose...
Enfin, c'est simple, oui, c'est... Oui, c'est... Enfin, c'est... Moi, ça me fascine, mais c'est pas évident quand on y pense, quand même. Oui, des champs électromagnétiques, mais après, moi, j'avoue que là, je suis un peu perdue aussi, même si ça me fascine, tout comme vous.
C'est invisible, donc c'est pour ça qu'on est un peu perdu.
Oui.
Mais ensuite, quand on entre dans la loi des choses, c'est comme ces lois de l'esprit que vous connaissez bien, ça devient très logique. C'est invisible, mais ça devient logique.
D'accord.
Et dès lors qu'on peut l'appliquer, et nous pouvons appliquer ça à la thérapie, parce que dès lors que nous savons comment scientifiquement nous interagissons, comment scientifiquement nous nous connectons à notre intuition, à notre potentiel de guérison, on peut le transmettre aux personnes pour qu'elles-mêmes sachent de quoi est faite leur technologie intérieure, on peut dire ça comme ça.
D'accord, bah écoutez, je vais vous écouter. Moi, cet été, je vais apprendre des tas de choses. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez finalement cette nouvelle aventure là à la radio, ce dialogue qui est effectivement une expérience très différente de l'approche en cabinet ou à
C'est
l'hôpital.
Vrai. J'en suis très heureuse. Particulièrement en cette période, parce qu'on vient de traverser une période extrêmement difficile, où il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup d'épreuves nouvelles auxquelles les personnes n'étaient pas forcément préparées. Et je pense que c'est le moment de réveiller les ressources de chacun. Et alors, nous y contribuons tous modestement de la place où nous sommes dans la société, mais je trouve que c'est le bon moment vraiment pour chercher à apporter à chacun la ressource, l'étincelle dont il a besoin pour qu'il puisse évoluer, se relancer dans sa propre vie, peut-être se réinventer, enfin, c'est un grand mot, mais à l'échelle de chacun, ça peut signifier beaucoup de choses. Je suis très heureuse de le faire et particulièrement à ce moment-là.
Eh bien, écoutez, je suis sûre que les auditeurs vont être très heureux aussi que vous les accompagniez cet été. Il y a déjà d'ailleurs un message pour vous de Cornelia qui dit oh, « Elle a une très belle voix, j'adore ».
Merci,
c'est important,
Cornelia.
Ça c'est déjà un atout. Vous voyez, en radio, ça compte. C'est vrai que vous avez une très jolie voix. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur cet été avec en compagnie des auditeurs. Vous restez avec nous un petit peu ?
Oui, merci Caroline pour la générosité de cette transmission. Et puis j'aurai l'occasion de vous souhaiter à vous aussi un bel été.
Merci beaucoup Sabine.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Merci.
Alors Hervé, vous voulez me parler d'une rencontre? D'une rencontre. Non, c'est-à-dire que c'est une femme qui fait partie de votre vie depuis très longtemps.
Absolument.
Mais vous la voyez un peu différemment aujourd'hui.
Ben, il y a longtemps, en fait, que je la vois différemment. Mais bon, c'est bizarre quand même. Parce que, voilà, on s'est connus, on avait 8 ans.
Ah oui. Vous étiez à l'école ensemble ?
Oui, on s'est connus en 71. Voilà.
D'accord.
On avait 8 ans. Et puis, ben, on a fait notre scolarité jusqu'au collège. Mais le truc, c'est que la vie, c'est marrant, on ne nous a jamais séparés. On s'est toujours vus d'un peu plus près, d'un peu plus loin. Bon. Et puis, c'est devenu une excellente amie jusqu'à ma meilleure copine. Donc, après, ben, on s'est connus pendant 10 ans, puis pendant 20 ans, puis elle s'est mariée. Puis elle s'est mariée avec un... Alors, elle a eu pas mal de problèmes, mais bon, après, elle s'est mariée avec un garçon qui était un ami. Donc, du coup, ben, voilà. Et moi, j'ai toujours été un peu... j'en pinçais toujours un petit peu pour elle, si vous voulez. Mais j'avais un peu enfoui tout ça, parce qu'elle, elle disait... Parce qu'elle, non.
Vous n'étiez pas témoin, quand même, à son mariage?
Non. Par contre, son mari était le témoin du mien.
Ah, c'est drôle.
Ouais. Ouais, parce qu'on était très potes.
D'accord.
Et puis voilà, la vie avance, mais moi j'avais mis tout ça, j'avais enfoui tout ça, si vous voulez, dans un mouchoir, et puis je vivais très bien comme ça, enfin je vis très bien comme ça, de toute façon, hein, puisque c'est toujours à peu près le cas. Sauf que, bon, donc on a continué de se voir, et elle a perdu son mari un jour, où effectivement, là c'est tout le monde était évidemment très triste et moi je me suis fait une promesse, c'est de jamais la laisser tomber, mais toujours dans une relation pote quoi, copain, vous voyez.
Mais vous n'en pinciez plus pour elle, je reprends votre expression.
J'avais tout enfoui, si vous voulez. J'étais pas dans ce truc-là. J'étais parti dans un truc où je disais voilà, c'est ma copine, c'est comme ma sœur, c'est mon âme sœur, mais on est potes. Voilà.
Bon,
et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on peut parler des heures, on peut s'engueuler sans qu'il y ait jamais de conséquences à terme. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire si vous en termes de
relation. C'est rare d'ailleurs de se suivre comme ça depuis l'enfance.
Mais c'est ça qui est drôle en fait, et c'est ça qui fait que le truc est resté serré, c'est que le temps passant, ça sert le lien. Aujourd'hui, c'est drôle quand vous entendez 50 ans de chemin.
Vous revoyez toujours la petite fille de 8 ans ?
Ouais, mais je l'ai vue grandir.
Mais oui.
Et je l'ai vue grandir aussi. Ouais.
Et alors, il est de quelle nature aujourd'hui, votre lien ?
Toujours pote.
Oui, mais si toujours vous m'appelez...
Mais c'est ça mon problème du moment.
Ben parlons-en alors.
C'est ça mon problème du moment, c'est que si vous voulez, là, moi je me suis séparé récemment.
D'accord.
Et donc, évidemment, à qui me confier d'autre que cette fille-là ? Donc, du coup, bah, de fait, on se voit beaucoup.
Oui.
Et là, je sens pointer le truc qui remonte à la surface, puisque du coup, elle est toute seule et moi aussi.
Son mari, elle n'a pas refait sa vie, comme on dit, depuis le décès de son mari.
Non.
C'était il y a combien de temps pour elle ?
C'était il y a une vingtaine d'années.
Ah oui ? Elle était toute jeune quand elle a perdu son mari.
Ouais.
Donc là, actuellement, vous vous voyez beaucoup. C'est une présence consolatrice pour vous.
Ouais, mais en fait, comme c'est quelque chose qui était un peu... Bon, il y a pas trop de chagrin dans mon affaire à moi. Donc, si vous voulez, c'est juste que ça me permet de... Ça me permet juste de discuter, d'évacuer, en fait.
D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que votre ex-femme n'écoute pas, parce que c'est tant mieux si vous pouvez vous séparer sans trop de chagrin. Alors, vous êtes en train de retomber un peu amoureux de...
Ouais.
Oui.
Ouais. Et donc, je cherche sa compagnie, forcément.
Oui, oui.
Et je me prends à me dire et pourquoi on finirait pas notre histoire ensemble. Mais je sais pas si c'est bien.
Pourquoi parler de la finir, la commencer, peut-être ?
Ouais, mais dans le chemin, si vous voulez, vous voyez, dans le chemin. Moi, je parle de finir, c'est dans le chemin, parce que bon, on arrive à des âges, si vous voulez, où bon, voilà, oui, on peut commencer, comme vous dites, mais pour moi, c'est l'idée de continuer d'avancer, puis pourquoi pas vieillir ensemble, pour le coup.
C'est pas toujours simple de passer d'une. Vous avez dit à un moment, c'est ma pote. Ça dit beaucoup de choses, ce terme. C'est-à-dire qu'il y a finalement comme. Cette relation, elle est. Il y a une très grande. Quand on dit. Comme si ça pourrait être un homme, finalement. Il y a comme si elle était devenue presque asexuée, quoique les relations humaines ne sont jamais asexuées.
Non, justement, c'est ça le problème. Des amis, j'en ai plein. des amis femmes, j'en ai plein.
D'accord.
J'en ai plein, c'est 4, 5, 6, 7. Après de qui, c'est pas sexuel du tout. Puis je m'en fous global, quoi. Je m'en fous complet. Et là, non.
Et alors, finalement...
C'est ça qui me fait bizarre.
Oui, ça vous trouble.
Ouais.
L'émergence, à nouveau, du désir que vous éprouvez pour elle. Comme elle vous connaît bien, très bien même, est-ce que vous pensez qu'elle elle s'en est aperçue ? Ou pas ?
C'est
difficile.
Je pense que oui.
Vous aimeriez bien ? Oui.
Non, je ne sais pas si j'aimerais. Le problème, c'est que je ne sais pas si j'aimerais qu'elle s'en soit aperçue ou pas, ou qu'on en parle ou pas ensemble. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire en sorte qu'on en parle. Parce que moi, j'aime pas tenir les choses, j'aime pas tenir les trucs trop planqués, quoi. Mais c'est bizarre le sentiment que ça me fait, parce que j'en ai envie, puis d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on va pas tout planter, quoi.
Vous avez peur en même temps.
C'est ça.
Bah oui. Bah oui, le désir, c'est compliqué, oui, vous avez.
Voilà. Parce que par ailleurs, c'est. Voilà, c'est. Si je la perds de ma vie, c'est juste impossible.
Oui, mais en même temps, non, voilà. Vous êtes dans une situation qui est un peu embarrassante parce que, comme vos sentiments évoluent, vous n'êtes plus tout à fait dans le cadre de l'amitié. Il y a le désir qui est là, qui émerge à nouveau. Donc je comprends que vous ressentiez le besoin d'en parler. Mais comment comptez-vous vous y prendre finalement ? Vous avez...
Je n'en sais rien. Oui. C'est d'ailleurs une des vraies raisons du pourquoi je vous ai appelé. Mm-hmm. C'est parce que je voulais vraiment avoir un avis neutre et extérieur à tout ça, pour pouvoir effectivement essayer de trouver des clés. Moi, je n'ai pas l'habitude d'y aller par quatre chemins. Si à un moment donné, on dit les choses et puis elles sont entendues. Moi, je n'aime pas quand les gens vous disent à un moment donné, je ne savais pas. Moi, j'aime bien que les gens sachent. Donc, à un moment donné, si je dois... en parler. C'est-à-dire, j'ai deux solutions. Soit j'en parle et je remets le truc sur la table et on va au bout du truc et on en parle ensemble. Et puis voilà, sans que pour autant, en espérant que ça ne porte pas à conséquences néfastes, soit je dis rien et je remets mon mouchoir dessus. C'est aussi une possibilité.
Oui, enfin, ça va peser sur votre relation. Vous parlez de cette peur de la perdre. Mais si finalement, vous ne dites rien... ça, à un moment, ça va influencer la relation, ça risque de la perturber, ou ça peut même créer un malaise au fond entre vous.
Ouais, je sais.
Vous voyez, donc je pense que vous avez raison de, au fond, de pouvoir en parler. Ou d'ailleurs, parfois, au-delà des mots, il peut y avoir des comportements qui finalement reflètent un peu ce que l'on ressent. À travers des... il peut y avoir un rapprochement qui peut se faire dans un élan. Parce qu'en parler, quand vous dites, bon, vous dites vous êtes quelqu'un, et je l'entends dans votre façon de vous exprimer, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous dites les choses, mais ça peut être un peu abrupt, du coup.
C'est vrai.
Et là, vous voyez beaucoup. Au fond, il vaut mieux y aller... Enfin, après, c'est... Ça dépend de la personnalité de chacun, mais peut-être par petites touches. Soit vous en parlez en disant que finalement vous vous sentez très bien en sa présence et que vous la voyez différemment ou alors vous pouvez aussi, il y a des gestes parfois qui traduisent une intimité. Est-ce que vous êtes libre dans vos gestes vis-à-vis d'elle ? Ou pas.
Oui,
mais un bon pote, on lui tape sur l'épaule.
Non, mais vous... je me suis mal exprimé sur la notion du pote, parce que en fait, on est pote, parce que quand je vous dis pote, c'est l'idée que j'avais mis le mouchoir sur tout sentiment autre, d'accord ? Mais en réalité, on est bien plus que... Enfin, on n'est pas pote relation, on se tape sur l'épaule, vous voyez, on est pote, mais avec une grosse dose d'intimité sur nos histoires respectives.
Oui, vous avez une très grande intimité.
Ouais.
C'est pour ça que je pense qu'au vu de cette relation quand même très particulière et de l'intimité qui s'est tissée au fil des années, c'est pas rien d'avoir connu quelqu'un dans l'enfance. Parce que l'enfance, c'est, on y revient toujours. Et même aujourd'hui, finalement, il y a toujours ce regard, au fond, que vous portez sur elle. Qui est un... Et je pense que, du coup, vous ne la perdrez pas. C'est toujours le risque dans ces relations, dans un schéma plus classique de l'amitié ou finalement l'amitié qui évolue vers l'amour, parce que ça peut arriver. Mais il y a toujours cette peur de perdre cette relation qui est précieuse, amicale. Mais là, vous avez construit une telle intimité, ce qui le risque qu'il peut y avoir si elle n'est pas dans le même état d'esprit que vous, si ce n'est pas partagé, si ce n'est pas réciproque, ça peut créer un petit moment de flottement. Et, enfin, un petit malaise et peut-être un peu une mise à distance, finalement, pendant un temps. Mais la perdre complètement, ça me, je peux me tromper, mais ça me paraît... je n'aurais pas cette crainte.
Ben, tant mieux alors.
Mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose dans, puisque vous la voyez beaucoup, vous la voyez d'ailleurs, comment vous retrouvez-vous en ce moment? C'est-à-dire, c'est chez l'un, chez l'autre,
c'est chez elle.
C'est chez elle
le plus souvent. Voilà, puis on fait ben, comme un couple, on va manger au resto, on se fait des bouffes, on se fait des sorties, on se fait des vies sociales. En fait, on se crée une vie sociale en fait.
D'accord, vous sortez donc tous les deux, vous voyez d'autres personnes?
Ouais.
Oui.
Ouais.
D'accord. Je
trouve dans la plupart des cas d'ailleurs qu'on va très bien ensemble.
Ah oui, c'est amusant. C'est, ben, vous savez, les gens, ceux qui vous connaissent, ils perçoivent des choses certainement. Mm-hmm. Ils vous le disent? Sur le ton de l'humour?
Non, il y a eu un cadre très clair. Ouais.
Comment elle réagit?
Elle l'a esquivé.
Oui. Alors, en même temps, vous dites quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans un quotidien, il y a quelque chose de, où vous êtes très à l'aise, finalement, vous dites, comme un couple. C'est important, le quotidien. Beaucoup de gens, souvent, disent, oh, le quotidien, c'est pénible, la routine. Mais finalement, une relation, elle se construit aussi dans ce quotidien. C'est bien de se sentir bien, finalement, avec quelqu'un dans le quotidien. Alors, évidemment, il peut y avoir un écueil. Parfois, on est tellement bien que, si vous voulez, il n'y a pas cette tension du désir. Et c'est ce qui fait qu'on est bien. Vous voyez?
Ouais.
Bon. Et ça, évidemment, vous n'avez jamais essayé un rapprochement, puisque parfois vous êtes chez elle, dans une soirée.
Non.
L'alcool aidant, avec modération.
Non, parce que j'ai tellement. Enfin, je vais vous dire les choses clairement, j'ai tellement peur de me prendre un vent.
Eh oui. Je comprends.
Je me dis, j'y vais pas. J'y vais pas. Et puis après, j'y vais pas parce que, comme je vous disais en préambule, c'est un peu cornélien cette histoire, quoi.
Vous avez peur de la perdre. Et vous n'avez pas envisagé l'autre hypothèse si elle n'attendait que ça, au fond, elle?
Ben, en tout cas, les signaux qu'elle
vous envoie
ne sont pas ceux-là.
Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez m'en parler un peu des...
Bah, en fait, les signaux qu'elle m'envoie, c'est voilà, on est très potes, on s'adore, on est comme je vous disais tout à l'heure, on est comme frères et sœurs en réalité, mais avec un truc un peu plus de frères et sœurs, c'est qu'on se parle de beaucoup plus de choses, je pense. Et puis on se connaît depuis longtemps, on a un entourage qui nous connaît depuis longtemps, donc on a plein de trucs à discuter, on se connaît. Tous les gens dont elle me parle, je les connais, tous les gens dont je lui parle, elle les connaît.
Mais cette dimension-là peut être un peu gênante, finalement. Quand vous dites on est comme frères et sœurs, on se connaît depuis longtemps, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas de relation sexuelle dans la famille. Enfin, c'est-à-dire qu'on en devient un peu asexué. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui font partie de notre entourage. Enfin, il y a quelque chose d'inenvisageable. Mais vous savez, le désir, c'est quelque chose d'énigmatique qui nous échappe. Et parfois, on a connu des personnes comme ça très proches, sous un angle amical ou de collègues. Et il suffit d'un petit basculement pour que le regard que l'on porte devienne différent et chargé de désir. Ouais. Alors parfois, il faut créer un peu. Et en même temps, si vous ne tentez pas, Si vous avez peur, la meilleure façon à ce moment-là, parce que parfois quand on a peur, c'est l'audace des timides. Du coup, quand ils se lancent, ils y vont, ils mettent les pieds dans le plat, quoi.
C'est ça.
Et c'est un peu un risque.
C'est ça.
Alors parfois, quand on a peur, on peut y aller par petites touches. Vous voyez, vous prenez la température du bain.
C'est ce que je fais.
Prenez un petit peu.
En réalité, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment.
Oui.
Je prends la température du bain et la température est assez fraîche.
Ah oui. Alors oui. Oui. Alors, est-ce que vraiment est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient en tête quand vous me dites ça? Vous avez essayé de tenter quelque chose et vous avez senti que...
Non, mais je la connais tellement que je sais.
Oui.
Je connais ses regards. Oui. Je connais les... Vous voyez, voilà.
Hervé, vous la connaissez sous un certain point de vue.
Ouais.
Vous ne connaissez pas... Il y a une part d'elle qui vous échappe. C'est la part de la femme, de la maîtresse qu'elle pourrait devenir, de l'amante, et ça vous échappe. Comme ça lui échappe aussi chez vous. Vous voyez ? Parce que il y a quelque chose dans la sexualité où on se révèle très différent. Qui, par définition, échappe au jeu social. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, vous voyez, on est. On a tous une certaine image au travail, en famille, avec nos amis. Dans une intimité amoureuse, j'allais dire, on est quelqu'un d'autre. Non, on est nous-mêmes, mais une facette de nous très différente. Et ça, vous ne la connaissez pas.
C'est sûr.
Mais c'est ce qui peut aussi faire que quelque chose peut advenir de cette étrangeté-là. Alors, il y a Frésia qui dit « Ben oui, mais si vous ne tentez rien, vous allez rester un confident. »
C'est ça.
Il y a Kate, elle est très optimiste pour vous. Elle dit « Oh, moi, je suis certaine qu'elle ressent la même chose. » Parlez-en, ou peut-être posez votre main sur la sienne. Ne perdez pas de temps. Il y a peut-être une belle histoire à vivre. Foncez.
Bon. Bah écoutez, en tout cas, ce sont
des femmes qui vous encouragent à y aller.
Ouais,
je comprends, hein, je comprends votre réserve. Je pense que par rapport à votre peur de perdre, je pense, au vu de ce que vous me décrivez d'elle et de votre relation, elle doit tenir beaucoup à vous. De quelle façon, je ne sais pas, évidemment. Mais vous êtes quelqu'un qui comptait beaucoup. D'ailleurs, là, par rapport à cette séparation, vous l'appelez, elle est là. Enfin, vous faites partie de sa vie. Donc, je pense que ça serait aussi un déchirement pour elle de ne plus vous voir, de ne plus pouvoir échanger. C'est vrai que si, évidemment, les sentiments ne sont pas partagés, elle peut avoir un mouvement, un peu de recul et prendre une certaine distance pour se préserver, pour ne pas peut-être laisser d'équivoques possibles pendant un temps. Mais pendant un temps seulement. Et de toute façon...
Je pense que de toute façon, ça, on le ferait tous les deux, parce que moi, ça serait pareil, il faudrait que je recule.
Ben c'est ça, aussi, bien sûr, vous aussi, parce que ça serait un peu difficile à vivre.
Mais je pense que
vous pourriez vous retrouver. Et de toute façon, peut-être que vous avez besoin d'en passer par là, parce que là, vous êtes un peu dans une impasse. Vous ne la voyez plus comme une amie, il y a ce désir qui est venu là, et vous êtes coincé. Et finalement, vous ne pouvez pas désirer ailleurs si jamais ce n'est pas possible de son côté à elle. Donc, la façon d'en sortir, c'est de pouvoir l'exprimer. Mais il y a les mots et puis il y a des façons d'être. Il y a d'ailleurs quelqu'un, le message n'est pas signé, qui dit « Oh, il n'y a pas à parler, juste à laisser faire selon les événements. Le rapprochement pourrait être alors une évidence. » Il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi cette prise de tête ? Ça me paraît tellement évident que ces tourtereaux s'aiment tout simplement. » Bonne chance, Hervé. C'est amusant parce que les auditeurs, c'est gentil, ils ont envie d'y croire pour vous. Et évidemment, pour eux, c'est l'évidence. Parce que quand on vous entend, oui, puisque c'est vous que l'on entend.
Ben oui.
Et on entend vos sentiments et on n'entend pas elle. Voilà. Paul, j'imagine que ça fait réagir parce que ça, ça nous est tous arrivé. Enfin, ça parle à beaucoup. Tout d'un coup, quelqu'un que l'on voit sans voir, finalement, parce que qui est proche, qu'on aime beaucoup, pour qui on a beaucoup d'affection, et puis un jour, il y a quelque chose de troublant. Ça peut être à la faveur d'une soirée. On porte un regard différent sur cette personne.
Il y a Myriam qui vous écoute, qui dit « C'est curieux, j'ai un peu l'impression que vous avez comme un petit air désabusé, mais désabusé et déterminé en même temps, comme un côté un peu fataliste. Être comme un couple en allant toujours à l'extérieur, c'est pas forcément faire couple chez soi. Donc faut pas hésiter, faut y aller. Christine qui dit « Bah comme vous êtes très intime, est-ce que vous avez déjà abordé le thème de votre vie sentimentale et de votre avenir ?» éventuel ensemble, enfin en tout cas parler des sentiments ensemble. Il y a Jacques qui dit bah si un des deux tombe amoureux, l'amitié ça risque pas forcément d'être entaché, mais la peur de tout gâcher est bien présente. Donc le mieux ce serait de l'avouer déjà. Et alors après on y va un peu plus. Hein. C'est Pascal qui dit mais tapez dans la fourmilière, foncez, osez. Il y a Bob le timide qui dit allez-y Hervé, vous n'avez rien à perdre. Oui, c'est un peu plus direct.
C'est marrant, oui, selon les réactions des hommes, des femmes. Mais appelez-nous peut-être 09 69 39 10 11. Vous vous êtes retrouvés dans une situation comme celle-là. Alors, premier cas de figure, ben vous vous êtes lancé. Vous dites, moi, je ne peux plus rester, il faut que je sorte de cette situation. Un ami, un collègue que vous aimiez bien, vous vous êtes lancé. Et puis, ben, patatras. Voilà, ce n'était pas réciproque, mais... Comment cette relation a évolué? Est-ce que vous êtes soulagé au fond vous senti soulagé d'en avoir parlé? Ça vous a permis aussi de clore quelque chose et puis peut-être de partir en quête d'autre chose? Ou alors, bah, ça vous est arrivé, vous étiez amis depuis un moment, depuis longtemps, et puis un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes amant et vous vivez une très belle histoire et vous n'avez qu'un regret, c'est de ne pas vous être déclaré plus tôt. 09 69 39 10 11. L'été, vous avez quelque chose de prévu ensemble, là, Hervé ?
Non. Non, non. Bah non, on va faire chacun de son côté. Et avec le plaisir de se retrouver à la fin.
Mais pourquoi vous ne prévoyez pas un petit week-end ?
Parce qu'elle a d'autres priorités, elle a des enfants à aller voir. Moi, je suis aussi en train de m'occuper du mien. Enfin, voilà, quoi. Donc, on a chacun nos trucs à faire de notre côté. Et on n'a pas prévu...
Donc, vous allez ronger votre frein jusqu'à la rentrée?
Non, je ne veux pas ronger mon frein. Parce que, si vous voulez, je ne suis pas de nature à ronger mon frein. Je vais mettre cette période-là à profit pour réfléchir et puis pour voir. Puis peut-être qu'à la rentrée, ça va se décanter, ouais. Hmm. Ouais, peut-être.
Mais vous nous rappellerez alors.
Je vous dirai, bien sûr. Bien sûr.
Bon, bah alors on vous dit bonne chance, hein, Hervé.
Ouais, en tout cas, merci de cet échange-là, parce que ça fait du bien d'avoir votre regard dessus. Et puis, bah voilà, c'était le but recherché.
Mais écoutez, merci de votre confiance. Et puis, moi, je pense qu'effectivement, il faut vous lancer quand vous vous sentirez prêt.
D'accord.
Bien, bel été à vous, alors, Hervé.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RT.
Puisque vous partez en voyage. Merci à Pascal Amiot, qui est directeur musical, pour cette délicate attention. Merci Pascal, il sait que j'adore Françoise Hardy et Jacques Dutronc.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
23h44 sur RTL. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Et vous pouvez appeler, bien sûr, le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. C'est ce qu'a fait Karim. Bonsoir Karim.
Bonsoir Caroline. Comment allez-vous?
Mais je vais très bien, moi. Je vous remercie.
Ça fait plaisir de vous avoir comme ça. En pleine soirée estivale comme ça, franchement, ça me touche beaucoup. Hein. Je suis un peu ému d'ailleurs.
Mais je suis un peu là pour vous, à vrai dire. Et vous, comment allez-vous alors, Karim?
Eh ben, ça va très bien. Oui, je suis positif. Donc, je suis la route d'une façon sereine, apaisée, on pourrait même dire.
Apaisée, ça n'a pas toujours été le cas alors?
Oh non, non, non. C'est tout un cheminement.
Donc, vous voulez me parler ce soir?
Oui, tout à fait, oui. Oui, justement, oui. Oui, je voulais vous parler un peu de tout ce qui touche, en fait, aux addictions, et plus particulièrement à l'alcool, en fait.
Oui. Oui.
Donc ça m'a touché en fait dès que j'ai eu pratiquement le début de l'adolescence, vers 14-15 ans.
Oui, c'est tout.
Ça a petit à petit instillé en moi en fait. C'était au travers de divers repas de famille, les anniversaires. Comme j'étais vraiment...
On vous laissait consommer de l'alcool en famille, à 14 ans?
Oui, c'est-à-dire si vous voulez goûter un peu sur le fond de la langue, un petit peu la saveur que ça avait. Donc il était de tradition des fois de permettre à certains jeunes adolescents dans le cadre familial d'un peu plus, disons, voilà, goûter aux choses qui sont un peu du domaine des adultes, entre guillemets, en fait. Mais bon, en fait, il s'est avéré que petit à petit, ça a instillé en moi. Et puis, petit à petit, ça a débordé du fait que, à la base, j'étais quelqu'un en manque total de confiance en moi.
Mais en même temps, à 14-15 ans, c'est un peu normal de manquer de confiance en soi, non?
Oui, mais c'était aussi en parallèle... par rapport à une situation familiale très déstructurée, si vous voulez.
Ah oui, qu'est-ce qui se passait dans votre famille?
Eh bien, si vous voulez, j'avais au niveau de mon père vraiment des violences qui étaient conjugales et régulières, récurrentes sur ma mère. Donc j'ai assisté à ça en compagnie de ma sœur, d'ailleurs, dès l'enfance. Et ça nous a un petit peu marqué, enfin, plus particulièrement. Quand vous voyez votre mère... des fois battue comme ça en rentrant le soir, c'est un petit peu des phénomènes qui sont un peu lourds dans le processus de l'enfance pour se construire en fait.
Et les violences conjugales impactent aussi les enfants terriblement. Totalement. Ça a des répercussions, oui. Totalement. Et les addictions peuvent faire partie des conséquences, des symptômes.
Oui. Oui, parce que on se sent en fait un côté très insécurisé en fait.
Oui.
L'intellect, après, il a du mal à se modeler, en fait. Et on est obligé de se réfugier dans des choses qui semblent nous amener ailleurs.
S'anesthésier un petit peu.
Oui, tout à fait.
D'une certaine façon, pour moins souffrir.
Tout à fait. Oui, pour moins, justement, ressentir la douleur, moralement, oui.
Et ces violences ont continué? Vos parents sont restés ensemble?
Oui, ils sont restés jusqu'à ce que je sois âgé de 6 ans, en fait. Et malheureusement, bon...
De 6 ans
Non, à l'âge de 6 ans, en fait. Quand j'ai eu 6 ans, c'est ma mère qui a décidé de quitter mon père. Mais ils vivaient, en fait, sous le même toit jusqu'à mes 6 ans, en fait.
D'accord.
Et on assistait tout ça vraiment très, très...
Elle a trouvé la force, quand même, de se séparer de votre père.
Oui, parce que c'était, si vous voulez, une femme qui a quitté son pays natal en Europe centrale et qui a été dans le milieu professionnel pour trouver un travail et fonder une famille, justement.
Oui, d'accord, je comprends.
En France, quand elle est venue, elle a fait preuve d'une grande capacité
d'adaptation.
Oui.
C'est un modèle en même temps. Elle n'est pas restée à subir, elle a repris sa vie en main.
Et
au moment de leur séparation, c'est avec votre mère que vous avez vécu?
Oui.
Avec votre sœur?
Ma sœur, nous avons eu la garde chez notre mère, oui.
Comment ça se passait alors? Vous alliez voir votre père aussi?
Alors, non, en fait, justement, nous étions tellement marqués, en fait, justement, au sein de la cellule familiale, que finalement, chacun a trouvé sa propre voie, mais indépendamment des autres, en fait. Ma sœur a plus été vers le cadre de se socialiser avec ses copines, ses camarades. Elle a plus vécu sa vie à l'extérieur du foyer. Et ma mère a vécu, en fait, au sein de ses... des gens immigrés qui étaient de la même origine qu'elle. Ce qui fait qu'on côtoyait souvent toujours les personnes issues de la même origine du pays dont elle venait, en fait. D'où elle avait émigré, en fait. Et on a coupé les ponts avec notre père, ma sœur, pardon, et moi, très, très tôt, quoi. On a vraiment eu des relations très, très épisodiques.
Vous ne l'avez jamais revu?
Si, on se revoyait, mais en fait, il y avait
c'était tendu. C'était, ouais, oui. Vous aviez peur en sa présence?
Oui. Oui, il y avait le côté un peu en grande peur intérieure de resubir ces souffrances morales qu'on avait vécues.
Je comprends.
En fait, oui.
Et alors, vous me dites donc que votre addiction à l'alcool, vous situez un peu les débuts au moment de l'adolescence. Bon, c'est l'âge aussi des transgressions. Mais là, on voit comment l'alcool peut aussi finalement débuter en famille, sous forme de. On initie l'enfant. À cela, et ça s'est accentué par la suite, j'imagine, puisque vous me parlez d'une addiction.
Oui, complètement, oui. D'ailleurs, après, quand j'ai petit à petit eu un diplôme, j'ai fait une recherche d'emploi, j'ai trouvé un employeur qui a bien voulu me prendre en tant que salarié, en
d'accord.
CDI.
Oui.
Mais petit à petit, l'alcool avait fait son
chemin.
Son chemin, oui, merci Caroline. Et c'est très insidieux, justement. On commence d'abord par se donner en fait du courage quand on va en soirée, comme ça, parce que moi j'ai toujours été très réservé, très presque quasiment autiste. Je ne comprenais pas les relations humaines, finalement. Comment aller vers l'autre, comment faire lien avec l'autre. Ça, je n'ai jamais su vraiment dans l'enfance, parce qu'on est une famille de taiseux. Donc, je n'ai pas eu de repères, que ce soit au niveau paternel ou même maternel, justement. Donc, j'ai dû moi-même me forger, en fait, cet élan pour aller...
Mais alors, au collège, vous étiez aussi un jeune adolescent comme ça, très replié.
Totalement renfermé.
Mais alors, ça a dû être dur pour vous, parce que le collège, c'est... quand on n'a pas les codes relationnels, on est souvent rejeté par les autres.
Oui, oui. J'étais un peu considéré comme, si vous voulez, un cas particulier. Comme j'étais un peu avec des bons résultats scolaires, c'est ça qui m'a...
Vous étiez bon élève, donc finalement, Oui, d'accord.
Oui, ça me sauvegardait un peu de toutes les railleries, de tout ça.
Oui. Mais dites-moi, quand on vous entend aujourd'hui, Karim, pour dire que vous étiez dans une famille de taiseux, vous vous exprimez très bien aujourd'hui. Et vous le faites même publiquement.
Merci, oui. Mais j'ai toujours aimé la langue française et je lis beaucoup. La lecture, ça m'a toujours passionné. Oui. J'ai toujours été un amoureux de la grammaire et du vocabulaire. C'est là où je me suis souvent justement retrouvé en cas de douleur et de souffrance. Je m'évadais en fait, principalement
à
travers les livres.
Mais oui, les livres ont ce pouvoir-là. Ce sont de merveilleux amis aussi.
Tout à fait. Oui.
Donc il y a eu l'entrée dans le monde du travail qui a été compliquée, où vous dites que finalement l'alcool avait pris une large place. Ça vous a été préjudiciable ?
Oui, complètement, oui, parce que les tâches qui m'étaient confiées, je les faisais, mais vraiment dans un
brouillard.
Un grand sentiment de malaise, de brouillard, et d'immense agressivité et d'anxiété mêlée.
À quel moment vous en avez pris conscience ? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu tout un cheminement. En général, dans une addiction, les personnes la cachent, taisent, font en sorte qu'il y a une part de manipulation, parce qu'il faut dissimuler. Or là, vous en parlez, donc ça veut dire qu'à quel moment vous avez pris conscience qu'il y avait un problème, justement, avec l'alcool, qui en masquait d'autres ?
Quand j'ai commencé la carrière professionnelle au début des années 2000, c'est-à-dire quand je commençais à être vraiment inclus dans la hiérarchie, dans mon entreprise, dans des habitudes, si vous voulez, et là où les relations avec les collègues étaient infernales, où je vivais des choses, des sortes d'humiliations entre guillemets, quoi. On se moquait de moi. On me faisait comprendre que j'avais un problème avec l'alcool, mais en fait, c'était jamais dit, si vous voulez, avec objectivité. C'était souvent, en fait, dit indirectement. Et comme moi, j'avais pas les codes, si vous voulez, pour décoder, en fait, ces deux, second ou troisième degré, tout m'échappait et je m'enfermais encore plus dans un cercle vicieux d'encore plus m'alcooliser, en fait.
Comment vous en êtes sorti finalement ? Parce que vous parlez de cercle vicieux. À un moment, comme vous étiez mal, que vous ne saviez pas entrer en relation avec les autres, l'alcool était devenu un refuge. À quel moment finalement comment vous en êtes sorti de tout ça ?
Quand j'ai en fait voulu déjà entamer des séances de psychanalyse en 2003.
Ah d'accord, c'est pas banal. C'était, oui, vous n'êtes pas allé voir un médecin addictologue, vous êtes dit je vais faire une psychanalyse.
Oui, c'est parce que je me disais que justement, à partir de la trentaine, vers 30, 35 ans, tout ça, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Hmm. Franchement, je suis pas un être humain, d'accord, entre guillemets, bien formé. Il y a quelque chose qui coince. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de le dénouer tout ça. Mm-hmm. Et ça m'a changé la vie, hein. Franchement, Caroline.
L'analyse?
Oui, tout à fait. Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté alors?
Eh bien, ça m'a apporté de retrouver une confiance vraiment à 100% en mes potentiels, que ce soit en m'acceptant en tant que personne issue d'origine métissée, et ça c'est et ça oui. a toujours été important pour moi, et en tant que personne bien et qui avait confiance en elle et en les autres. Et ça, ça a vraiment joué petit à petit et laissé de côté l'enfant qui était insécurisé depuis toute sa jeunesse, de côté.
Et très anxieux. Et...
Oui, oui, très très anxieux, oui, oui.
Oui, donc finalement, vous êtes entré en analyse parce qu'il y avait ce symptôme de l'alcool, mais très vite, vous avez parlé d'autre chose que l'alcool.
Oui, oui.
De votre histoire, de votre enfance.
Oui, tout à fait, oui.
Et alors, parce qu'il y a aussi dans l'addiction quelque chose, une dimension évidemment psychologique, mais aussi physiologique. Comment ça s'est fait finalement, progressivement, vous vous sentiez moins anxieux, vous avez eu moins besoin de consommer de l'alcool?
Alors, au début, j'en ai eu justement plus besoin, vraiment, jusqu'à pratiquement avoir des ivresses au quotidien, en fait, jusqu'à 35, 38 ans, comme ça, et jusqu'à ces fameuses années 2000, où là, vraiment, je rentrais en crise et pratiquement, j'étais une bombe à retardement autour de moi, quoi. Je faisais des agressions et verbales et physiques, donc je ne me reconnaissais plus du tout. Donc là, je me suis dit...
Oui, mais vous n'aviez pas les mots. Donc quand on n'a pas les mots, on peut basculer dans la violence.
Oui, oui. Tout à fait.
Et puis vous l'aviez connue, la violence. Vous étiez...
Oui, je l'avais, je l'avais inclus dans l'inconscient, c'est vrai.
Oui, et c'est difficile aussi en tant que garçon de se construire face à cette image de père violent.
Oui, tout à fait.
Ça devait vous faire très peur, finalement, quand ça s'exprimait. Oui, vous ne vouliez certainement pas lui ressembler.
Oui, oui, je voulais totalement être en contradiction totale et ne pas du tout suivre sa voie qui était pour moi une voie délétère. Mmh. C'était pas du tout ce vers quoi j'aspirais.
Je comprends.
Ouais, oui. Heureusement que ma mère était là, justement. Mais elle aussi, paradoxalement, ne trouvait pas justement les paroles qui pouvaient justement me donner une sorte de vision d'ensemble, vision de salut, entre guillemets, en fait, pour sortir de tout ça.
De vous apaiser, finalement.
Oui,
de...
pour m'apaiser, oui. Parce qu'elle-même avait peut-être aussi ses propres problématiques.
Peut-être une image un peu négative des hommes.
C'est peut-être ça, oui, ça jouait, à mon avis, énormément, oui.
Et dans vos relations amoureuses, dans vos relations...
J'ai énormément souffert, oui.
Pourquoi ?
J'étais complètement...
Pourquoi souffriez-vous ? Inhibé.
Totalement inhibé pour aborder quelqu'un. Et j'avais un complexe au niveau de de mon visage, de mes dents, tout ça. Je me sentais pas du tout, entre guillemets, attirant. Voilà. Je ne m'appréciais pas. Et puis ça bloquait totalement mes relations envers les éventuels
compagnons. Vous étiez très enfermé à ce moment-là. Ça ne se passait pas bien au travail, ça ne se passait pas bien dans les relations amoureuses, dans les relations en général.
Complètement. Je me sentais un peu comme je n'avais pas du tout le bon langage pour essayer de communiquer avec les êtres humains.
Quel chemin vous avez parcouru? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je reçois un petit mot de Frézière qui dit « Karim est intéressant et émouvant, il analyse très bien sa situation, il a les mots justes. »
Merci beaucoup, c'est très adorable de la part de
Frézière. Mais c'est sincère. C'est-à-dire
oui,
que
oui.
Vous arrivez aujourd'hui, vous allez nous parler, il va y avoir les infos de minuit, de nous dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, puisque c'est aussi après votre parcours qu'on a résumé, hein, c'est toujours compliqué de résumer une telle trajectoire, nous dire un petit peu aujourd'hui où vous en êtes dans votre vie, d'accord?
Oui, avec grand plaisir.
À tout de suite, Karim.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Belle nuit à l'écoute d'RTL et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Parlons-nous, c'est votre moment. Nous sommes à vos côtés et en direct pour une demi-heure encore. Alors, je vous invite à appeler le 09 69 39 10 11 pour me parler. Mais on va retrouver tout de suite Karim. Ben pendant les infos, vous voyez Karim, j'ai des messages qui sont arrivés encore pour vous par SMS. Joseph qui prend l'émission en cours et qui vient de vous écouter, qui dit vous avez vraiment effectué un beau travail puisque vous dites que l'analyse vous a sauvé la vie. Il dit on entend dans la richesse de votre vocabulaire. Il dit merci Lacan finalement. Alors je sais pas si c'était avec un lacanien ou avec un freudien.
C'était de type lacanien justement. Oui.
C'était d'accord. C'était un homme ?
Non, une femme, justement.
Une femme, d'accord.
Oui, je l'avais d'accord. fait avec une femme.
Bah écoutez, vous êtes vraiment... on en parlait avec Sabine Caligari en début d'émission, qui disait qu'elle est psychanalyste, qui disait qu'elle voulait justement pouvoir parler de psychanalyse. Vous en êtes un bel exemple de voir à quel point ça peut aider. Il y a Fabienne qui dit « Mais quel âge il a aujourd'hui, Karim ? Il est impressionnant de maturité. Belle route à vous !» Et oui, quel âge avez-vous aujourd'hui ?
J'ai 51 ans.
Alors, il y a également Frésia qui dit « Très intéressant, vraiment, et qui est bluffé par votre parcours, votre intelligence. Voilà, » que de compliments mérités. Alors, vous en êtes où aujourd'hui ?
Eh bien, justement, après avoir décidé de justement entamer ce processus à partir de 2003... j'ai vraiment suivi sur le plan hebdomadaire toutes les séances et puis ça a duré cinq années où petit à petit la psychanalyse à chaque fois me redonnait vraiment les axes de travail et vraiment je reprenais vraiment petit à
d'accord.
petit de l'oxygène à chaque fois.
C'est
finalement
formidable.
Ça me redonnait, ça me reboostait à chaque fois.
D'accord. Et alors aujourd'hui, donc vous, dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, vous vous sentez mieux dans vos relations avec les autres ?
Alors oui, je me ressens vraiment de façon très apaisée, très ouvert sur la découverte, la curiosité. Mais il faut dire aussi, pardonnez-moi Caroline, qu'en fait l'alcool. Ensuite, en parallèle de la psychanalyse, a été un peu là pour parasiter quand même le travail que je faisais, justement. Et il a fallu que, justement, j'ai malheureusement un décès qui est celui de ma mère, il y a 6 années, pour que vraiment je prenne la décision et vraiment en ferme et définitive de, justement, de laisser cet alcool de côté, derrière moi. Et là, c'est uniquement là que cet électrochoc a pu agir sur moi.
Ça a été le décès de votre mère qui...
Oui. Parce que j'ai voulu, si vous voulez... Comme c'était la personne que j'aimais le plus au monde, faire en sorte que marquer le coup en disant, de là où elle se situe, peut-être qu'elle sera fière de voir que j'ai pris cette décision, en fait. Intérieurement, c'est ce que je me suis dit.
Vous ne pensez pas qu'elle était déjà fière de vous et de votre parcours ?
Oui, je pense qu'une mère aime toujours, quels que soient les événements et les circonstances.
Elle était inquiète pour vous ? Elle savait que vous aviez ce problème-là ?
Peut-être, en elle-même, dans son fort intérieur, mais elle ne l'a pas verbalisé, justement. Elle le ressentait sans vouloir peut-être me peiner en me le formulant, justement.
Donc finalement, vous avez arrêté l'alcool par amour de votre mère.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui, tout à fait.
C'est un moteur puissant. Donc ça fait 6 ans que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool.
Oui, absolument pas, oui. Alors, ceci est justement, merci, est grandement aidé par justement l'association des alcooliques anonymes.
Ah,
je me rends régulièrement pour justement l'accompagnement, pour le soutien d'autres personnes qui ont traversé exactement les mêmes tourments et même souffrances que moi.
C'est important le groupe, hein, la force du groupe aussi.
Oui, oui.
Parce que l'alcool isole terriblement.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Il nous fait nous sentir en même temps finalement désinhibés, mais en même temps il nous fait complètement recentrer sur nous, sur nos fonds vraiment les plus néfastes, quoi, les plus négatifs. Ouais, c'est vrai.
Mais dans ce groupe, vous y êtes allé au départ pour vous, mais aujourd'hui, j'imagine que vous faites beaucoup de bien à de nouvelles personnes qui arrivent. Parce que ça doit leur donner du courage et de la force, votre parcours.
Oui, c'est toujours, vraiment une émulation et un échange toujours épanouissant. Hein. Ils font vraiment un travail remarquable. Il faut vraiment louer tout ce qu'ils ont fait pour sortir les gens de leurs problèmes d'alcool. Ils sont vraiment en pointe, hein, je trouve. Hein. Une humanité incroyable. Hein. Vraiment, ils sont toujours là pour...
On en parle souvent, oui. C'est vrai qu'on nous en parle souvent dans ces problèmes d'addiction à l'alcool. Beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices nous disent qu'ils ont trouvé beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien auprès de ces groupes et des alcooliques anonymes. Mais je vous remercie beaucoup, Karim, d'avoir partagé votre parcours avec nous. Vraiment, ça montre qu'il ne faut jamais désespérer, jamais renoncer. Il y a encore un petit message de la dame de cœur pour vous qui dit « Karim, force l'admiration. Malgré cette enfance chaotique, il a fait un beau chemin. Bravo à lui pour aujourd'hui de tenir bon. On vous souhaite le meilleur
pour la suite. » Merci, hein, franchement, Caroline, ça me touche beaucoup. Et puis, franchement, merci pour aussi tout le bonheur que vous apportez à travers vos émissions, le fait de ces échanges, une grande fraternité. Je trouve qu'ils sont vraiment dans la période que nous vivons, ils sont primordiaux. Quoi,
oui, parce qu'on a besoin
d'intérêt
de liens,
public,
c'est
même.
Vrai. Oui. C'est très gentil, c'est très gentil. Normal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, Pascal, il nous a concocté un programme d'été.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Encore des messages hein, pour Karim qui vous a impressionné par son intelligence, sa capacité finalement à surmonter les difficultés. Il y a Coco qu'on retrouve avec plaisir qui dit chapeau bas Karim, votre maman doit être très fière de vous. Vous avez beaucoup de courage et une grande force. Il y a Louisa aussi qui dit vous êtes une bien belle âme et je suis sûre que votre témoignage et vos paroles ce soir seront un baume pour ceux qui se débattent dans cette difficulté de l'alcool. Des messages aussi, je crois, Paul, sur Facebook pour Karim.
Jean-Marie qui se reconnaît dans le témoignage de Karim. Alors, sauf pour les addictions, à part le sport, pour moi, qui est un peu une addiction, dit Jean-Marie. Oui. Ben, c'est un peu moi, dans une autre génération. Je me reconnais vraiment dans ce témoignage, dans ce qu'il a vécu plus jeune. Et il y a Corinne qui dit, ah ben oui, depuis là-haut, sa maman doit être rassurée et peut-être l'a-t-elle aussi un peu aidée. Karim a une intelligence sensible impressionnante. Oui. Je lui envoie plein de pensées.
Oui, oui, il a une capacité d'introspection incroyable, Karim. C'est vrai, je comprends qu'il vous ait beaucoup touché. Et on va accueillir Thérèse. Bonsoir Thérèse.
Bonsoir.
Et merci d'avoir appelé le standard de Parlons-nous. Je crois que c'est le témoignage d'Hervé en tout début d'émission qui vous a donné envie de nous appeler. Alors Hervé, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début, Hervé, il connaît une femme depuis tout petit, puisqu'ils avaient 8 ans. C'est une très bonne amie, si ce n'est que ses sentiments ont évolué depuis un petit moment. Il est amoureux d'elle, mais il ne sait pas comment se déclarer. Vous avez vécu quelque chose comme cela, vous, Thérèse ?
Oui, enfin, moi, je suis âgée maintenant, mais enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais en couple, j'étais heureuse, enfin, il n'y avait pas de problème avec mon mari. Oui. Et nous avions un autre couple ami, et avec qui nous sortions souvent. Nous étions amis par nos enfants, parce que les enfants allaient à l'école. Oui. Bon. Et puis, donc, nous avons vécu plusieurs années côte à côte, enfin, comme ça, c'est tout, amis, voilà, bon copain, vraiment. Et moi, je savais que j'avais confiance en lui, si si j'avais un pépin, quelque chose, je savais que je pouvais compter sur lui.
Oui.
Mais bon, après, mon mari est décédé,
oui.
Et bien sûr, en bon copain, il m'a tout de suite, il est tout de suite venu m'aider, enfin, me proposer de m'aider. Et puis, ben, tout d'un coup, il m'a fait comprendre que lui, c'était moi, pour moi, c'était un copain, mais lui, pour lui, c'était autre chose, quoi.
Ah oui.
Et donc.
Et est-ce que, alors, est-ce que vous êtes tombé des nues? Est-ce que, ou est-ce que vous.
Oui.
Vous n'aviez pas senti.
Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Et quand. Et je vais vous dire comment ça s'est passé.
Oui.
J'étais chez lui, j'étais passée, pour un voyage, je m'étais arrêtée chez lui, et puis je n'arrivais pas à boutonner un bouton dans le dos, dans mon cou. Alors je lui ai demandé, un bon copain, on peut lui demander tout, je lui ai dit, oh, s'il te plaît, attention. Et il m'a embrassé dans le cou.
Oh là,
je me suis retournée complètement ébahie, mais alors vraiment ébahie.
Oui.
Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'a dit, mais t'as jamais compris? Depuis qu'on se connaît, il ne voyait plus que par moi, mais moi, j'avais rien compris. Du coup, on était veufs tous les deux, on a vécu quelques années ensemble, quelques années de bonheur ensemble.
C'est beau, oui. Oui, parce que finalement, il n'est plus là aujourd'hui, ce monsieur.
Non plus. Oui.
Non plus.
Non.
Mais non plus. Vous, parce que là, on en parlait un peu avec Hervé. Parfois, les mots, ça peut être un peu compliqué dans ces situations. Il peut y avoir des rapprochements. C'est ce qu'a fait votre ami dans un élan. Il n'a pas pu s'empêcher. Et alors, il a pris le risque, mais à ce moment-là, vous auriez pu vous retourner et le gifler, voyez.
C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit quand je me suis retournée brusquement parce que j'étais tellement heureuse. Il dit j'ai cru que tu allais me gifler. Mais non, finalement, c'est vrai qu'il est. On s'entendait bien, je l'aimais beaucoup, mais je l'aimais comme une amie. Et après, on a vécu quelques années vraiment de bonheur, quoi.
Oui.
Surtout sans problème, puisque on avait connu chacun notre mari et notre femme, et à cette époque-là, lui n'a jamais rien dit, il a été d'une correction exemplaire.
Parce qu'en fait, il avait un petit faible pour vous, il était amoureux de vous en secret depuis des années.
Ah oui.
Oui. Et vous ne vous étiez aperçu de rien.
Ah oui, ah non. C'était vraiment le bon copain. Je savais que je pouvais compter sur lui. Je savais que je pouvais lui demander n'importe quoi. Mais bon, c'est tout. Ça s'arrêtait là. Il avait une femme que je connaissais. On s'entendait bien. Lui, moi, j'avais mon mari. Lui, il connaissait mon mari. Enfin, je veux dire, on n'avait pas de problème. Enfin, moi, de mon côté, je n'avais pas l'idée qu'il pouvait m'aimer autrement que comme une amie.
Mais oui, mais en fait, ça a été une révélation pour vous et ça vous a permis de vivre une jolie histoire.
Oui, voilà. Vous voyez, à tout âge, on a des histoires.
C'est joli ce que vous nous racontez. Et puis, c'est un petit signe d'encouragement pour Hervé, peut-être. Il faut qu'il offre à cette femme une robe, quelque chose qui se boutonne dans le dos. Voilà, c'est vrai, ça peut aider. Bon, si ce n'est que, Hervé, elle l'aidait pas beaucoup, cette femme. Il disait que la température était un petit peu fraîche, donc il avait un peu de mal à plonger, et on le comprend en même temps.
Remarquez, moi, je lui ai jamais donné de signe de. Enfin, si, j'étais bien avec lui, mais bien comme on est avec un copain.
Oui.
Mais je ne l'ai jamais donné.
Oui, il ne se serait pas lancé. Enfin, ça a été un élan, finalement. Vous auriez continué cette amitié. Parfois, comme quoi, il faut faire ce petit pas de côté.
Voilà, il faut se lancer.
Oui. Je vous remercie beaucoup, Thérèse, d'avoir partagé cette jolie histoire avec nous. Et puis, si Hervé est à l'écoute, il va peut-être y voir un encouragement de plus.
Je lui souhaite.
Merci,
Thérèse. Et vous, je vous souhaite bonnes vacances.
Oh, c'est très gentil, vous êtes adorable. Merci beaucoup, Thérèse. Vous partez un petit peu cet été?
Non, maintenant, maintenant, je suis un peu âgée pour circuler. Pour
oui. Un peu. Vous êtes dans un endroit agréable, vous allez un peu profiter à voir un peu de la famille, un peu qui va vous rendre visite.
Ah oui, je vais avoir tous mes petits-enfants et arrière-petits-enfants qui vont venir me souhaiter mes 90 ans.
C'est pas vrai, vous avez 90 printemps ?
Là, dans une semaine.
Ah, bah alors on ne peut pas vous le souhaiter à l'avance, mais ça va être une belle réunion de famille, un joli moment, là.
Ah bah oui, je vais avoir tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants. J'en ai 6 arrière-petits-enfants.
Oh là là, ça va être bien de les avoir comme ça autour de vous. Moi, quand je vous entendais parler, vous aviez la voix d'une jeune fille quand vous nous parliez de cette histoire d'amour. Ben oui, l'amour n'a pas d'âge.
Gentil. Hein. C'est gentil.
Je vous embrasse bien fort, vraiment, Thérèse, et ben, fêtez bien hein, vraiment votre anniversaire en famille.
Et moi, je vous remercie pour tout, pour votre émission. C'est vrai que c'est très agréable.
Oh, ben c'est très gentil à vous.
J'ai beaucoup de plaisir à entendre votre voix parce que j'aime beaucoup votre voix. Voilà.
Merci, merci pour tout, Thérèse.
Allez,
au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir, Céline.
Bonsoir, Caroline.
Et bienvenue.
Oui.
Vous voulez
donc,
réagir aussi
ben moi, disons que j'ai décidé, il y a longtemps que je voulais vous appeler, déjà, par rapport à ce que j'allais vous dire ce soir.
Oui.
Et puis, j'ai écouté Hervé, voilà, qui ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est un peu mon histoire.
Ah bon ? Ah bah alors, c'est bien, merci d'appeler, parce que comme ça, vous allez pouvoir un peu peut-être le conseiller. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Pas dans le bon sens.
Bon,
non,
bah,
non.
Ah, bon. Alors, vous aviez comme ça un ami
depuis
longtemps ?
Depuis à peu près 15 ans. Par contre, il est en couple.
Oui.
Il est en couple, il est avec une femme qui a des problèmes psychiatriques.
Ah, oui.
Des voix, enfin...
Ah oui, donc... Oui, un problème d'hallucination, c'est
Oui,
c'est
voilà,
lourd.
Voilà, oui. Mais, oui, mais grave, quoi. Grave, oui. Grave.
Il a toujours connu donc, comme ça ?
Comment ?
Il a toujours connu comme ça ?
Non. Moi, je suis, disons que j'allais les voir assez souvent en tant qu'amis. Et puis, j'allais faire des voyages aussi avec eux et tout. Et voilà. Et bon, je voyais bien il y avait des soucis. Mais bon, avec moi, elle était très sympathique. J'ai jamais eu à m'en plaindre.
Oui.
Et jusqu'au jour où, bon, moi, je fais de l'acupuncture et... Il m'a dit, bah, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire de l'acupuncture, donc est-ce que tu as un médecin que tu connais ? Alors, bon, je lui ai donné mon médecin. Donc, il est venu comme ça. Il est venu à son rendez-vous. Il m'a invité au restaurant le soir même.
Oui.
Et alors, au restaurant, je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Si tu t'imagines que entre nous il peut exister quoi que ce soit, il n'y aura jamais rien entre nous.
Ah mais vous avez pris les devants parce que vous sentiez qu'il s'apprêtait à se lancer.
Disons que je voyais, et c'est vrai qu'on s'entend très très bien.
Oui, mais vous sentiez qu'il y avait
mais
plus.
Mais moi, je m'entends bien avec lui, mais en tant qu'ami.
Oui, mais j'entends bien, mais pour lui faire une telle déclaration au resto en disant si tu t'apprêtes, c'est que vous sentiez que lui envisageait plus avec vous. Il envoyait des signaux.
Que bon, je voyais bien que sa femme avait des soucis, et puis que, je ne suis pas du tout le même style de femme, et qu'on avait plein de choses en commun, quoi. Alors, plein de choses en commun.
Mais alors, dites-moi, vous lui avez annoncé ça à l'entrée ou au dessert ? Parce que le pauvre vieux, là, ça y est,
non,
ça n'a pas dû
à
passer. À l'entrée ? Oh, à la fin du repas,
Oui.
Comment il a réagi, le pauvre ?
Je me suis dit, je ne veux pas qu'il s'imagine.
Ah oui.
Moi,
bon, mais il a dit, allez, un café, l'addition, au revoir.
Non, parce qu'il est tellement respectueux envers moi. Il n'a Dieu que pour moi, mais il décrocherait la lune.
Eh oui, mais vous l'aimez beaucoup, mais...
Alors, je l'aime bien.
Ben oui.
En tant qu'ami, c'est tout.
Ben oui, ça ne s'explique
mais
pas, ça ne se commande pas.
Je ne me vois pas du tout...
avoir un rapprochement plus intime
non,
avec
pas
lui.
Du tout. pas du tout. Mais alors, ce qui me gêne, moi, c'est que, bon, j'ai 69 ans, mais pas finir mes jours seule. Mm-hmm. Et je me dis, bon, le jour que je vais rencontrer quelqu'un, comment je fais, quoi? Alors, c'est vrai que...
C'est amusant, presque, finalement, vous vous sentez un peu gênée par rapport à lui. Ben oui, mais vous ne lui devez rien.
Oui. Ah, j'ai même... parce que des fois, je vais sur des sites de rencontres et j'ai même fait devant lui, j'ai pris mon ordinateur et je suis allée sur des sites pour lui montrer que, ben, vis-à-vis de lui...
voilà. C'est un peu dur, peut-être.
Oui.
Parce que vous lui avez dit, il a compris, je pense, et vous dites que c'est quelqu'un de respectueux.
Oui, mais longtemps après, parce que ça fait 7 ans qu'il vient à la maison.
Mais il vient beaucoup ?
Tous les mois.
Ah oui, mais, je pense qu'il n'essaie plus, il ne fait plus de tentatives.
Ah, il n'en a jamais fait.
Eh bien non, vous voyez, donc il est très respectueux. Vous pouvez, vous voulez mettre des barrières. Donc ça n'a pas nui à votre relation, puisque vous disiez que, au fond, c'était la peur d'Hervé. Bon, ça n'a pas nui à votre relation. Pour autant, peut-être, je pense qu'il a compris cet homme. Quand vous êtes avec lui, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de lui dire, tiens, je suis sur un site, faut le ménager aussi un peu, non ? Votre amitié,
je
en
rencontre
tout cas.
Quelqu'un, je fais comment?
Eh ben, mais c'est pas votre mari. Alors, il est marié, c'est votre ami. Vous êtes libre. C'est comme si vous vous sentiez pas libre. C'est fou,
donc,
ça.
Au début, quand il repartait, il pleurait.
Oui, bon, c'est pour ça, il faut pas le... faut dire, écoute, je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais vous pouvez dire, tu sais, je connais ta femme, on se connaît depuis tellement longtemps, non, il n'y aura rien d'autre, mais tu comptes énormément pour moi, voyez. Et puis, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, il en prendra son parti, je pense, voyez. Faut vraiment... Bon, mais vous lui avez dit, c'est ça, et bien sûr, ça a dû le rendre triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas responsable de sa relation conjugale non plus. Mais je vous remercie, en tout cas, Céline, d'avoir partagé aussi avec nous cette histoire.
Bien pour montrer à Hervé que ça peut durer dans le temps comme ça, mais
bien sûr.
Moi, je ne me verrais pas avoir une relation
Je comprends. Après, chaque histoire est singulière. Merci beaucoup, Céline, pour votre appel. Au revoir. Avant de vous dire au revoir, je voulais remercier mon équipe, Marc Bisset, l'homme de l'ombre précieux et indispensable, et bruiteur hors pair. Klaxon de camion, sirène de bateau, bruit d'animaux, aucun son ne lui résiste. Merci Marc. Merci à Paul aussi pour son implication. Avec bonne humeur, il vous rassure, vous met en confiance avant votre passage à l'antenne. Merci aussi à Caroline qui vous a accueilli avec beaucoup de douceur et de gentillesse et qui nous a régalé tout au long de l'année avec ses délicieuses pâtisseries. Caroline ne sera pas là la rentrée, mais c'est pour une excellente raison, parce qu'elle a décidé de reprendre ses études. Et on te souhaite beaucoup de succès dans tes projets, ma petite Caroline. Merci à vous pour votre confiance et votre fidélité. Dès lundi, vous retrouverez Sabine Calégari à ce micro. Moi, je vous donne rendez-vous le 23 août. Je vous embrasse affectueusement et je vous souhaite un bel été.